Vous écoutez, on lit pour vous.
Il y a 10 ans, l'avalanche meurtrière de l'Everest changeait les conditions de vie des Sherpas. Un texte de Pavan Mathema de l'Agence France Presse, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir. En 2014, une avalanche sur l'Everest a enseveli 16 guides locaux, braquant les projecteurs sur les dangers considérables auxquels les Sherpas népalais sont confrontés pour permettre à des étrangers fortunés de réaliser leur rêve d'alpinisme. Sans leur travail, essentiel pour tracer les voies d'escalade, fixer les cordes, réparer les échelles et transporter le lourd matériel en altitude, peu d'alpinistes pourraient atteindre le sommet le plus haut du monde. Le 18 avril 2014, un mur de neige s'est abattu sur les Népalais qui, dans l'obscurité glaciale, hissaient du matériel lourd sur la périlleuse cascade de glace du Khumbu. La force de l'avalanche a projeté Dawa Tashi d'une dizaine de mètres, le blessant à la cage thoracique, à l'omoplate gauche et au nez. Le jeune homme, âgé alors de 22 ans, se souvient bien de ses amis qui ont péri dans la coulée. 3 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. « J'ai eu de la chance de survivre », déclare-t-il à l'Agence France-Presse. « À l'hôpital, chaque fois que j'essayais de dormir, ils apparaissaient devant mes yeux. » Point de bascule. C'était très difficile à l'époque, se souvient Nima Doma, qui a perdu son mari, Tsering Onshu, de 33 ans, dans l'avalanche. Que faire quand le principal pilier de votre foyer n'est pas là? Les enfants étaient petits, et je me demandais comment je pourrais les éduquer et comment nous pourrions subvenir à nos besoins. Car après la catastrophe, le gouvernement népalais, qui tire des revenus très importants de la lucrative industrie de l'alpinisme dans l'Himalaya, n'avait proposé que l'équivalent de 400 dollars pour les frais d'obsèques aux familles des victimes. Une aumône rejetée en bloc par des Népalais en colère, qui ont alors déclenché un mouvement de protestation sans précédent pour réclamer aux autorités de meilleures indemnités en cas de décès ou de blessure en montagne. Le drame fut un point de bascule pour les jeunes Sherpas qui étaient frustrés, a déclaré Sumit Joshi pour la société Himalayan Ascent, qui a perdu 3 guides dans l'avalanche de 2014. Depuis lors, ces équipes n'effectuent plus l'ascension à la date anniversaire. Amélioration, mais encore insuffisante. 10 ans plus tard, on constate une amélioration de leurs conditions de travail et du respect qu'ils inspirent, se félicite cet organisateur d'expédition. Auparavant, nombre des Sherpas étaient contraints de compter sur la charité des alpinistes occidentaux, bien que jouant un rôle fondamental dans le succès de cette industrie de plusieurs millions de dollars. Lors de la dernière saison en 2023, le gouvernement népalais a gagné plus de 5 millions de dollars uniquement avec les droits d'accès à l'Everest. En 2014, les manifestants du camp de base réclamaient surtout une amélioration des indemnités d'assurance-vie et la création d'un fonds de secours. Nous défendions les intérêts des alpinistes népalais en veillant à ce qu'ils bénéficient d'un maximum d'avantages, rapporte Ang Tsering Sherpa, qui dirigeait à l'époque l'Association des alpinistes népalais. Le montant versé par l'assurance a été augmenté de 50% pour atteindre 1,5 million de roupies népalaises, 11 250 dollars, en cas de décès en montagne. Les hélicoptères sont désormais autorisés à acheminer des fournitures vers les camps les plus élevés, ce qui réduit le nombre d'expéditions effectuées par les Népalais à travers la dangereuse cascade de glace du Khumbu. Les entreprises népalaises ont supplanté les opérateurs étrangers pour attirer la majorité des alpinistes, et les conditions de vie se sont améliorées pour les guides des grandes entreprises. Mais ces progrès restent insuffisants, estime le guide Mingma G. Sherpa. Les politiques gouvernementales ne sont toujours pas bonnes. Les épouses ne sont pas d'accord. Les dangers de la montagne sont tels que de nombreux guides ont quitté le secteur. Le nombre de Sherpas a considérablement diminué. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui doivent aller chercher des Sherpas, et non l'inverse, comme c'était le cas par le passé, ajoute Mingma G. Sherpa. Nous voulons aller grimper car nous connaissons l'environnement là-bas, mais les mères et les épouses ne sont pas d'accord, confie-t-il. Rescapé de l'avalanche de 2014, Dawa Tashi, lui, est retourné sur l'Everest en 2021. Celui qui a commencé les treks à l'âge de 11 ans n'a pas renoncé à guider les alpinistes et se prépare à accompagner 6 Américains vers le sommet Mera, qui culmine à 6461 mètres. Il y a eu des améliorations après la catastrophe. Mais ce n'est pas suffisant, dit-il aussi. Et d'évoquer les 11 000 dollars que chaque étranger doit payer au gouvernement pour gravir l'Everest. Les clients seraient heureux de payer cette somme, sachant qu'elle sera utilisée pour leur équipe, estime-t-il, appelant le gouvernement à créer un fonds de protection des travailleurs de la montagne. C'était, il y a 10 ans, l'avalanche meurtrière de l'Everest changeait les conditions de vie des Sherpas, un texte de Pavan Mathema de l'agence France Presse, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir.
Les Noirs n'ont pas le droit de venir ici. Un texte de Maxime Aurélien et Ted Rutland, paru le 8 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Les médias de masse ont dépeint le gang des Bélanger comme une organisation criminelle qui semait la terreur à Montréal dans les années 1980. Plus de 3 décennies après la dissolution du groupe, leur chef livre sa version des faits à la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Le gang ne nourrissait pas la violence, mais il réagissait plutôt à la violence des autres. Maxime Aurélien et Ted Rutland. Depuis qu'on avait pris la décision de se défendre contre les insultes et les attaques racistes, ce n'était pas uniquement notre expérience au centre-ville qui avait changé. Grâce à cette décision, on réagissait aux insultes et aux menaces partout où on allait, y compris dans de nombreux endroits où on acceptait auparavant les agressions. Lorsqu'on se rendait à Montréal-Nord, par exemple, on continuait à recevoir des insultes racistes de toutes parts en marchant dans la rue. Désormais, au lieu de les éviter, on cherchait d'où elles venaient. Parfois, il s'agissait d'un individu blanc dans l'un des immeubles abreuvant la ville de ses propos racistes depuis un balcon. On identifiait à quel étage et de quel côté du bâtiment il se trouvait, tout en anticipant notre propre réaction. Si on n'était que 2 ou 3, on revenait plus tard avec nos amis. Si on était déjà 5 ou plus, on était prêt. Une fois dans l'immeuble, on frappait à la porte de l'appartement du détracteur. Lorsqu'il ouvrait la porte, l'un de nous demandait « Pourquoi tu nous as insultés ?» Il n'avait pas le temps de répondre qu'on le plaquait déjà au sol. La personne ne s'attendait jamais à ce que l'on fasse ça. On le laissait par terre, puis on sortait du bâtiment. On a continué ainsi pendant un certain temps, en adoptant toujours une approche identique. Il est intéressant de noter que nous n'avons jamais eu à affronter la même personne 2 fois. Il nous est déjà arrivé de passer devant l'appartement d'un gars qu'on avait battu auparavant. Il était assis dehors sur son balcon. Mon corps s'était tendu, anticipant son insulte et la confrontation qui allait suivre. Toutefois, il n'a pas dit un mot. Il a tout simplement détourné les yeux, comme s'il ne nous avait pas vus. Il nous arrivait plus souvent de ne plus jamais revoir la personne qu'on avait confrontée. Où était allée la personne? On n'en avait aucune idée. Peut-être avait-elle déménagé dans un autre quartier. Peut-être était-elle simplement restée dans son appartement plutôt que de s'asseoir sur son balcon. Quelle qu'en soit la raison, nos actions ont eu pour effet de débarrasser progressivement les rues de Montréal-Nord des insultes et menaces racistes. Tout comme on avait fait du métro un de nos territoires, les rues sont devenues nôtres, des lieux où on pouvait nous déplacer librement et nous amuser, comme n'importe quel autre résident de Montréal. On pouvait tout bonnement vaquer à nos occupations, sans avoir à entendre des insultes humiliantes ni à craindre les actes violents de nature raciste. Ces affrontements nous réjouissaient. En effet, il y avait un sentiment de joie associé au fait de changer nos conditions de vie, de faire en sorte que ces lieux d'hostilité deviennent pour nous des lieux de divertissement sans avoir à vivre dans l'humiliation ou dans la peur. Heureusement pour nous, les lieux qu'on pouvait reconquérir en ayant recours à cette stratégie ne manquaient pas. Par exemple, il y avait de nombreux bars dans la ville qui refusaient entièrement l'entrée aux Noirs ou avaient un quota informel. Chez Zouzou, un bar du centre-ville situé sur la rue Mackay permettait l'entrée aux Noirs, mais ils appliquaient une limite informelle pour que leur nombre soit raisonnable. Non loin de là, sur la rue Mansfield, le club Capitole a été accusé de discrimination raciale en 1983 après avoir refusé l'entrée à 4 hommes noirs, affirmant que le club était privé, ce qui n'était pas le cas. Les hommes y sont finalement entrés en suivant un groupe de personnes blanches, mais le directeur du club les a repérés et les a fait expulser de force. Il existait également un club sur la rue Sainte-Catherine, le Rendez-vous, qui usait de stratégies plus créatives. En 1983, le propriétaire a jugé qu'il y avait trop de Noirs qui fréquentaient son club et a déclaré que ces derniers monopolisaient l'endroit. Il l'a donc transformé en un bar country et western appelé le Calgary. Lorsque les Noirs tentaient d'entrer dans le nouveau bar, le portier leur refusait l'entrée en disant « Les Noirs n'ont pas le droit de venir ici ». Le propriétaire a eu l'audace de déclarer aux médias « Nous ne laissons pas un seul visage noir entrer dans cet endroit. Je le fermerai plutôt que de permettre cela ». Le bar a rapidement cessé ses activités. Lorsqu'on a commencé à fréquenter des bars, on ne savait jamais à quoi nous attendre. Il y avait un club à Montréal-Nord, l'Horizon, qu'on aimait beaucoup. C'était un endroit chic, avec une clientèle majoritairement italienne. Les gens portaient de beaux vêtements et arrivaient au volant de voitures luxueuses. Il y avait un panneau à côté de l'entrée indiquant « pas de noir ». Il permettait le passage à quelques-uns d'entre nous, surtout ceux qui étaient plus clairs de peau. Mais nous n'étions jamais autorisés à entrer tous ensemble. Un de nos amis qui vivait sur la rive sud nous a parlé d'un autre bar, le Centre de danse de Longueuil. Il avait essayé d'entrer une nuit avec un groupe d'amis, tous noirs, mais le portier lui avait demandé de lire le panneau à côté de la porte. « Pas de nègres », annonçait le panneau. Nous avions fermé les yeux sur la discrimination à l'horizon, mais là, c'en était trop. On a décidé de saboter le bar comme on s'y était pris avec les autres endroits à Montréal. Un samedi soir, on a fait le long trajet en transport en commun de Saint-Michel à Longueuil. Arrivés au centre de danse, nous avons aperçu l'enseigne raciste. Un seul portier se tenait debout à côté de l'entrée. Alors, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous entendez par « pas de nègre »?»« C'est simple », nous a répondu le portier. « Les gens comme vous ne sont pas autorisés à entrer. » C'est alors que je lui ai donné un coup de poing dans la bouche. Mes amis se sont rapidement ralliés à moi. L'homme était par terre lorsque trois ou quatre autres portiers, des hommes blancs, très costauds, ont émergé de l'intérieur du bar. Nous avons tous commencé à courir. J'ai entendu l'un d'eux pester derrière moi. « Nous allons vous tuer !» Et j'ai réalisé qu'ils avaient dégainé leurs armes sur nous. J'ai fini par atterrir dans une rue transversale où j'ai tourné, puis je me suis glissé sous une voiture pour me cacher. J'ai pu constater que les autres faisaient la même chose, chacun cherchant à se protéger dans l'obscurité de la nuit. Les portiers ne nous ont pas trouvés, mais, après un moment, nous avons vu une équipe de policiers fouiller la zone avec leurs lampes de poche. Quand ils nous ont vus, ils nous ont ordonné de rentrer chez nous en empruntant les rues secondaires. « Il vaut mieux que vous quittiez les lieux tranquillement », a déclaré l'un d'eux. On n'a jamais pu entrer au centre de danse et, sachant qu'on n'était pas à la hauteur de colosses blancs armés, on n'y est jamais retourné. Maxime Aurélien est né à Port-au-Prince et a grandi à Montréal. Il est le premier chef de gang de rue haïtien de Montréal. Présentement, il est propriétaire de Cash Content, commerce de prêts sur gage et salon de barbier dans l'est de Montréal. Ted Rutland est professeur à l'Université Concordia. Ses recherches et son activisme portent sur les dynamiques raciales qui sous-tendent l'organisation urbaine et l'intervention policière dans les villes canadiennes. Pour aller plus loin, Il fallait se défendre, un livre de Maxime Aurélien et Ted Rutland, paru aux éditions Mémoires d'Encrier. C'était « Les Noirs n'ont pas le droit de venir ici ». Un texte de Maxime Aurélien et Ted Rutland, paru le 8 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
À chaque foyer, son gun, bâton rouge, Louisiane. Un texte de Luce Tremblay-Godette, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Luce Tremblay-Godette témoigne de l'omniprésence des armes à feu dans son nouveau cercle social. « Je vis à bâton rouge depuis maintenant 2 ans et je ne pense presque plus au pistolet qui dort dans la table de chevet de mon mari. Comment un homme si empathique a-t-il pu un jour décider de s'acheter une arme à feu? La question me tourmente à l'occasion, peut-être parce qu'il n'y répond jamais clairement. Pour lui, c'était simplement la chose à faire, dans les circonstances. Un peu comme pour mon ami Sam, victime de 2 vols à main armée. Après le 2e incident, ce photographe et musicien fondamentalement anti-armes s'est acheté un revolver et il a appris à tirer. Sa blonde, Cathy, directrice artistique, savait viser à l'âge de 8 ans, instruite par un père obsédé par les armes. Elle jure qu'elle pourrait tirer sans hésitation sur une malfaiteur-malfaitrice et l'atteindre. Mais, intimidé par son pouvoir meurtrier, le couple cache le pistolet dans un coffre de sécurité. Brittany possède un revolver depuis longtemps, celui de sa grand-mère, un cadeau de son propre père qui en avait hérité et qui a dû insister pour qu'elle le prenne en aménageant dans son premier appartement. Si elle le gardait chargé quand elle habitait seule, elle entrepose les munitions en lieu sûr depuis qu'elle vit avec Jack, qui a 2 enfants. Pour avoir entendu les pires histoires en cours, ce couple d'avocats-avocates en droit juvénile connaît bien les risques associés aux armes à feu. S'il conserve le pistolet, c'est surtout pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains. Et des tireurs-tireuses mal intentionnés à bâton rouge, il n'en manque pas. Il ressort de la base de données Neighborhood Scout qu'une personne vivant dans la capitale sur 108 risque d'être victime d'un crime violent. Depuis que je vis ici, je lis les nouvelles comme on suit une mauvaise série policière. Un groupe d'adolescents-adolescentes armés de fusils d'assaut qui terrorisent le quartier voisin du mien pendant 2 semaines avant d'être arrêtés. Pas très loin, une collégienne criblée de balles dans sa voiture au milieu de la nuit. Un homme assassiné en plein jour devant ses 2 enfants alors qu'il est au lavoto. Ce même lavoto où, 1 an plus tôt, un cas de rage au volant a fait 1 mort par balle. Cet endroit maudit est à 3 coins de rue de chez moi. J'apprends à cartographier ma ville à travers ces fusillades. Ici, presque tous les quartiers aisés sont bordés par un quartier chaud. Depuis ma grande cour avec piscine, j'entends à l'occasion des coups de feu. Mais certains codes postaux sont si dangereux que des résidents-résidentes craignent d'amener leurs enfants au parc. Quand je traverse ces secteurs, j'ai l'impression d'entrer dans un univers parallèle où je ne suis pas la bienvenue. Au fond, je réalise que ce ne sont pas les armes de mes amis qui me choquent le plus, c'est ce degré extrême de ségrégation qui divise le territoire. Luce Tremblay-Godette est photographe et scénariste de formation. Elle a collaboré à Nouveau Projet numéro 8 avec l'article « De la colocation à la collaboration » et a créé le balado « Les facteurs anonymes » présenté par Atelier 10. C'était « À chaque foyer son gun », Bâton rouge, Louisiane, un texte de Luce Tremblay-Godette paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Les bienfaits de l'huile d'olive extra vierge pour notre santé. Une chronique signée Richard Béliveau, parue le 30 juillet 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Une étude clinique montre que le simple fait d'utiliser l'huile d'olive extra vierge comme corps gras principal diminue l'inflammation et le stress oxydatif, 2 facteurs de risque de plusieurs maladies chroniques. La recherche des dernières années a clairement montré que l'inflammation chronique joue un rôle très important dans le développement des principales maladies chroniques qui touchent la population, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, des démences ou du cancer. Dans la plupart des cas, ce climat inflammatoire est une conséquence de certains facteurs associés au mode de vie qui perturbent l'équilibre physiologique du corps et créent des conditions favorables à la production de molécules inflammatoires par certaines classes de cellules immunitaires. Le surpoids, la sédentarité et la mauvaise alimentation sont des conditions très répandues qui contribuent à la création de cet environnement inflammatoire. Réduire l'inflammation chronique par la modification de ses habitudes de vie, représente donc une approche très prometteuse pour diminuer le risque de l'ensemble des maladies chroniques. Huile d'olive anti-inflammatoire. Plusieurs études ont montré que l'adoption du régime méditerranéen pourrait représenter une approche valable pour réduire l'inflammation chronique. Cette alimentation millénaire préconise un apport abondant en fruits, légumes, légumineuses, noix et grains entiers, qui sont tous des aliments riches en fibres et en composés phytochimiques qui possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Une autre caractéristique fondamentale du régime méditerranéen est l'utilisation abondante d'huile d'olive extra vierge comme corps gras principal. Cette huile se distingue des autres huiles végétales par la présence de certains polyphénols dotés de propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, notamment l'oléocanthal et l'oléacéine. Ces deux molécules sont conservées lors de l'extraction des olives par pressage à froid et sont présentes à des concentrations 10 fois plus élevées dans l'huile d'olive extra vierge comparativement à l'huile d'olive standard, produite par raffinage industriel, solvant, haute température. La consommation régulière d'huile d'olive extra vierge est donc associée à un apport élevé de ces molécules anti-inflammatoires avec une activité équivalente à celui de 10 mg d'ibuprofène. Réduction de l'inflammation. Une étude clinique récente vient de confirmer ses bénéfices de l'huile d'olive extra vierge sur l'inflammation chronique. Dans cette étude randomisée, des participants souffrant d'obésité, IMC 30 à 40, et de prédiabète ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui utilisait exclusivement l'huile d'olive extra vierge comme source de gras, groupe EV, et deux, un groupe qui utilisait de l'huile d'olive commune contenant beaucoup moins de polyphénol, groupe OC. Après un mois, les rôles ont été inversés et chacun des participants a reçu l'autre type d'huile d'olive. Même si l'intervention était de seulement 30 jours, les résultats obtenus sont très clairs. Les chercheurs ont observé que, comparativement au groupe OC, le traitement EV provoquait une baisse significative d'une importante cytokine pro-inflammatoire, interféron gamma, et augmentait en parallèle l'activité antioxydante totale du sang, diminution de marqueurs du stress oxydatif. Les participants EV ont également montré une baisse significative de poids, 1 kg, ainsi qu'une amélioration de leur glycémie comparativement au groupe OC. Il semble donc que les effets anti-inflammatoires et antioxydants plus prononcés associés à l'huile d'olive extra vierge se traduisent concrètement par une amélioration rapide du métabolisme. Cette étude montre que certains changements minimes à nos habitudes alimentaires, comme simplement utiliser de l'huile d'olive extra vierge au lieu d'autres types d'huile végétale, peuvent entraîner rapidement, en quelques semaines à peine, des effets positifs mesurables sur la santé. C'était « Les bienfaits de l'huile d'olive extra vierge pour notre santé », une chronique signée Richard Béliveau, parue le 30 juillet 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.